Pierre-Étienne Joie.
L'Union suisse des arts et métiers s'élève avec vigueur contre l'entêtement des auteurs de l'initiative pour des multinationales responsables déposée ce matin. Selon l'USAM, l'initiative est trompeuse. Elle augmente les charges administratives non seulement pour les grandes entreprises, mais également pour les PME. Cette deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises vient donc d'être déposée. Elle souhaite que les multinationales suisses respectent les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et soient responsables des dommages causés. L'Union syndicale suisse combattra par tous les moyens une loi qui pourrait permettre de réduire les salaires par voie législative au détriment de milliers de travailleurs dans les branches à bas salaire. Il s'agit de traduire dans la loi la motion adoptée d'un élu du centre qui demande à ce que là où elles existent, les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimal. La neutralité suisse ne doit pas être définie de manière plus stricte. Suivant le Conseil fédéral, la commission de politique extérieure du Conseil des États rejette l'initiative sur la neutralité. Sur le fil, elle a décidé de ne pas proposer de contre-projet direct. L'initiative veut qualifier la neutralité helvétique de perpétuelle et armée. Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense. Malgré des pertes constantes depuis 40 ans, le PLR et le PS restent les forces dominantes dans les villes suisses. Ces deux partis comptabilisent toujours le plus de sièges dans les exécutifs et les parlements des villes. En 2024, par exemple, le PLR représente 24% des mandats dans les exécutifs communaux contre 21% pour le PS, relève l'Office fédéral de la statistique. Dans les législatifs, les deux partis sont à égalité avec 21% des sièges. À Genève, candidat malheureux en 2023, l'UDC Lionel Dugerdil est en lice pour l'élection complémentaire au Conseil d'État du 28 septembre. En phase d'expansion dans le canton, son parti espère qu'il sera le candidat unique de l'Alliance de droite. Et à l'instar de plusieurs cantons, Vaud devrait autoriser le droit de vote et d'éligibilité des Vaudois installés à l'étranger. Ceci pour l'élection du Conseil des États, la Chambre des cantons à Berne. Le Grand Conseil a très largement accepté un projet de décret, mais c'est le peuple qui aura le dernier mot. Dans le Haut-Valais, des fractures dans le glacier qui surplombe Blatten augmentent de manière significative. Une grosse avalanche s'est produite la nuit dernière avec un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau, mais sans atteindre le fond de la vallée. Un nouveau vol de reconnaissance est prévu aujourd'hui. Une deuxième caméra doit être installée, ce qui permettra d'évaluer de manière plus détaillée les mouvements et l'aspect des crevasses sur le fond du glacier. Cyclisme, Primoz Roglic, grand favori au départ du Tour d'Italie, a abandonné lors de la 16e étape. Aujourd'hui, le Slovène a été victime d'une nouvelle chute sous la pluie à environ 95 km de l'arrivée. Des trains directs vers Marseille et Avignon seront proposés cet été par les CFF depuis Lausanne et Genève. Ces liaisons ferroviaires supplémentaires avec le TGV Lyria seront assurées du 28 juin au 24 août. L'offre estivale est aussi notamment renforcée depuis Zurich, où un train direct sera proposé tous les jours jusqu'à Gênes et Sestri-Levante en Ligurie et Pise. Météo, soleil en pleine à travers des nuages denses, 21 degrés avec faible vent d'ouest au nord-ouest. Demain, assez ensoleillé le matin en Valais, autour du Léman et dans les Préalpes, seulement en partie ensoleillée sur le nord de la région.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Chacun pour tous, la minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Nous recherchons des livres de lecture niveau primaire, des jeux d'intérieur et d'extérieur, à savoir tout ce qui est utile dans une cour de récréation, jeux de créativité, trampoline, balançoire, mini toboggan, ballon de foot, etc. Pour soutenir l'association Femmes Solidaires pour l'émergence africaine et le développement particulier d'un village, de salles, de classes et de formation dans une zone forestière du sud du Cameroun, 058 236 1600, 058 236 1600. D'autres détails sur rts.ch/, chacun pour tous.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Maté Doré.
Bastien Testori est de retour aux manettes pour réaliser cette émission en direct jusqu'à 17h. Soyez les bienvenus, vous êtes de retour aux manettes aussi, Mélanie.
Oui, oui, mais j'ai pas de manette, heureusement.
Vous avez eu tellement d'autres choses.
Je suis pas très doué en manette.
Une citation pour commencer. J'adore transformer les grands rêves en projets bien réels. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur sa page d'accueil, enfin la page de son site web. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle joint le geste à la parole. Notre invitée du jour, militante des droits humains, coach en performance mentale, et aussi athlète d'endurance. Elle vient de boucler, rien moins que la traversée des Alpes. Oui, la traversée des Alpes, tout l'arc alpin, faut se figurer la chose. De Vienne en Autriche jusqu'à Monaco, 54 jours, 1600 kilomètres, 5 pays traversés, Autriche, Italie, Suisse, France et Monaco. Donc, périple dont elle a eu l'idée. Ça fait 67 700 mètres de dénivelé. Là aussi, il faut donner quelques chiffres. D'abord à vélo, puis en ski de randonnée, puis à pied, avec deux copines, trois femmes pour ce qu'on appelle l'Alpe. Alpine Quest, la quête alpine qui a aussi été pour elle, une grosse prise de conscience quant aux conséquences du changement climatique dans les montagnes. Elle est avec nous pour nous raconter ce périple, cet exploit et tellement d'autres choses. Loubna Frey, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez en pleine forme, vous avez achevé votre périple il y a un mois à peu près, fin avril. Comment on revient de 60 jours comme ça? Est-ce qu'un mois après, quatre semaines après, vous avez totalement récupéré?
Non. J'ai pas totalement récupéré. C'est vrai que je sais pas si j'ai envie de totalement récupérer. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à l'assimilation, vraiment enregistrer, revivre, nourrir ces images qu'on a vues et qu'on a plein les yeux encore.
Donc là, j'allais sur le plan physique, physiologique, les courbatures, la fatigue du corps. Vous me parlez déjà quasiment de spiritualité là. Hein. Mais c'est un voyage dont vous voulez qu'il vous habite encore longtemps.
C'est ça, exactement. Le corps récupère assez vite. Hein. Je pense que, en tant que préparatrice mentale, je pense que le mental, c'est plus compliqué. Il faut être très attentive.
À quel signe, par exemple ?
Il faut bien écouter le mental. Il nous dit ce dont on a besoin. Et le corps ne guérira pas ou ne se remettra pas si le mental n'est pas reposé.
C'est la tête qui dirige ? C'est la tête, la patronne ?
Alors c'est dangereux quand on dit ça, si c'est la tête qui dirige, ça veut dire qu'on peut décider de battre un record du monde. Mais en fait, oui, on peut décider de battre un record du monde. Donc c'est très complexe comment le corps réagit par rapport à la tête.
Alors, on peut en dire aussi ce que vous faites avec votre tête et votre corps, parce que c'était une conjugaison des deux. Vous avez gagné les championnats du monde de triathlon longue distance. C'est tout récent, hein, c'était l'année passée à Nice. Catégorie 55-59 ans, mais ça c'est un détail, parce que la date de naissance elle est sur notre passeport, mais on s'en fout.
Ouais, surtout dans votre cas.
Surtout dans votre cas.
Vous avez une mine hallucinante quand même.
Alors
ça réussit la montagne.
Iron Man, mais ça n'existe pas sur le versant féminin, on ne dit pas Iron Woman, non, ça s'appelle Iron Man.
Malheureusement, on ne dit pas Iron Woman, je pense que c'est parce que c'est un trademark, c'est un nom déposé.
C'est un label.
De marque,
ouais.
Voilà, c'est un label de marque déposée.
Donc alors, c'est Ironman pour les hommes et les femmes.
Oui.
Il n'y a pas d'égalité encore en la matière. Alors on va rappeler ce que c'est aussi, puis on racontera tout ça dans le détail. L'Ironman, c'est 3,8 km de natation. J'ai pas calculé en longueur de bassin ce que ça fait, mais ça en fait quelques-unes. Puis ensuite, on enlève le maillot de bain, enfin on le garde peut-être pour monter sur le vélo. 180 km de vélo. Pour donner une idée, 180 km, c'est le tour du lac Léman intégral. Sauf que là, il y a plus de montée dans ce que vous faites dans l'Ironman. Puis une fois qu'on en a fini avec le vélo, on met les chaussures de course et on fait un marathon, 42,195 km. Mais franchement...
Pourquoi?
Qu'est-ce qui était le plus dur, traverser les Alpes ou de gagner un Ironman?
Ah, ça c'est une question qui est intéressante. Ce qu'il y avait, mon premier Ironman, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas si je pouvais le finir. Donc il y avait cet élément un peu de surprise et mêlé à de l'appréhension. La traversée des Alpes, quand on est parti le 1er mars 2025 de Vienne, vraiment, je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. Donc quelque part, ça c'est plus difficile. C'est vraiment une exploration, une aventure. Mais l'Ironman est une aventure parce qu'il nous arrive toujours en 11h, 12h, il nous arrive plein de choses.
Il faut 11h en tout ? Donc vous passez une journée à faire un sport très intensif quand même ?
Oui, on ne s'arrête jamais. En fait, oui.
Oui, sur 11h, c'est vous enchaîner les épreuves, sans jamais vous prendre 30 secondes de pause.
Non, la transition, il y a deux transitions, de la natation au vélo et du vélo à la course à pied. Et en fait, les transitions font partie de la course. Et il faut les faire le plus vite et de façon la plus efficace possible.
Oui, c'est comme ça. Il faut optimiser les transitions, enfin, c'est ça. Oui.
C'est une course contre la montre, il faut quand même faire en sorte d'arriver le plus vite possible.
Oui, c'est une course contre soi-même ou avec soi-même.
Contrairement à la traversée des Alpes, où vous ne vous étiez pas fixé un objectif chronométré. Vous vous étiez dit à peu près 60 jours, hein, parce qu'il y a des jours où il fait mauvais temps, des jours où on a mal aux pieds. C'est pas le même esprit. C'est pas contre le chronomètre, ça. Hein.
Exactement. Et bien sûr, et là, on fait aussi avec les éléments. On les fait dans le Ironman, mais là, on était avec les éléments, ou parfois les éléments étaient contre nous, tous les jours. Donc, il faut faire avec, et il faut avoir l'état d'esprit pour anticiper ou pour être bien dans l'inconfort de ça.
Être bien dans l'inconfort, on retient la formule Loubnafré. On racontera tout ça dans le détail. Ce qu'il faut dire aussi à votre propos, c'est que vous n'avez pas toujours été athlète d'endurance et de haut niveau. Sportive, skieuse, ça oui. Mais si j'ose dire, c'est venu après, pas sur le tard, mais à la quarantaine. Hein. C'est ça votre histoire?
Absolument. Et même si vous parlez à des amis proches qui sont en train d'écouter, je pense, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait faire la fête et qui avait beaucoup d'énergie. Par contre, j'étais toujours celle qui avait le plus d'énergie de tout le monde, mais j'étais plutôt dans ce milieu-là.
Alors... Donc, grosse fête. Endurance, mais une autre sorte d'endurance.
Oui.
L'endurance de la fête, quoi.
C'est joliment dit, ça.
Il faut dire d'emblée que votre Alpine Quest visait deux buts principaux. Contribuer à la préservation des glaciers, célébrer la connexion des femmes avec la nature par le biais du sport. On n'a pas cité vos deux copines, Mélanie Corté et Sophie Pelka. Mélanie Corté est guide, hein, c'est ça, guide de montagne. Donc, c'était la caution sécuritaire du trio.
Oui, elle est très douée en plus et c'est la première guide de montagne féminine du Val-de-Bagne.
Ah ben voilà, c'est important. Il y a très peu de femmes guides de montagne en Suisse. Je crois que c'est moins de 2%. Mm-hmm. Hein. Faut aussi donner ce chiffre-là.
Et c'était toute une équipe de femmes d'ailleurs.
Vous toutes les femmes qui nous ont... Exactement. Toutes les personnes qui...
D'autres autour, que des femmes.
Que des femmes.
Et niveau glacier, après avoir lu quelques-uns de vos comptes rendus, c'était encore pire que prévu ce que vous avez rencontré. Les conditions dues notamment au changement climatique étaient encore pires que prévu.
Absolument. On est donc parti de Vienne en vélo pendant 5 jours et ensuite on a tout de suite se mis dans l'action du ski et de la neige et on est parti sur le Großglockner, qui est le plus haut sommet autrichien.
3700 mètres?
Oui, 3798 mètres, exactement. Et très vite après, le jour d'après, là on avait déjà traversé deux glaciers, mais on a retraversé d'autres glaciers et notamment un qui a un nom imprononçable, je l'ai là si vous le voulez, mais qui était juste gris et c'est un très grand glacier. Hein. C'est un glacier qui d'habitude on skie là en bas. Je pense que Mélanie avait anticipé qu'on allait skier et on s'est retrouvé à s'encorder, mettre les crampons, prendre le piolet et le désescalader. C'était gris, un gris bleu et de la glace vive.
Des conditions estivales, en fait.
Ben, on est au début mars, en Autriche, à 3000 mètres d'altitude, c'est quand même...
Il n'y avait pas de neige.
Non, c'était très surprenant.
Et là, quel est le sentiment qui vous guette, à part celui de la sécurité, évidemment. On ne peut pas skier et glisser comme prévu, on doit désescalader, c'est toute une technique. Est-ce que ça vous rend triste, cette situation-là?
Oui, ça me rend très triste. Vous avez raison d'aller sur ce domaine-là parce que c'est quelque chose plutôt de l'émotionnel. On connaît les chiffres ou plus ou moins. On nous dit les chiffres nous-mêmes. On est en train de répéter les chiffres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quel impact ça a sur nous. Et c'est vrai que ça a aussi un impact émotionnel. Hein. Ça fait partie de nous. Ce sont les châteaux d'eau. Ce sont les gardiennes de la vie. En fait, en montagne, je veux pas trop en faire, tomber dans le mystique, d'être mystique. Mais en fait, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Et j'ai été contente de partir et de faire ce voyage ou cette aventure pour ça aussi. J'avais en moi un sentiment qu'il fallait y aller et qu'il fallait se dépêcher. Et quand j'étais sur ce glacier, le deuxième jour de ski, donc le septième jour d'Alpine Quest, je me suis dit, ben c'est ça qui se passe.
Se dépêcher parce que plus tard, ça n'est plus fréquentable, la montagne se sera trop écroulée, les glaciers ont trop fondu, ou parce qu'il sera trop tard pour en témoigner dans les deux sens?
Dans les deux sens. J'ai deux garçons et c'est vrai que je pensais à eux et me dire ils ne pourront pas faire ce que je suis en train de faire. Et il y a quelque chose en moi qui aime transmettre. Donc bien sûr, là, il y a aussi le fait qu'il faut aller dans... Oui, il faut parler aux générations futures et autour de nous. Et pas rester bloqué sur ces chiffres ou dans une certaine impuissance.
Oui, parce que vous avez la photographie d'ensemble, vous. Les chiffres, on les connaît, les plus 2,5 degrés de réchauffement climatique, la fin probable de la plupart des glaciers en Suisse et même dans l'arc alpin d'ici 2100, tout ça, on peut le voir écrit dans les journaux, on peut en parler à la radio, mais vous l'avez senti sous vos pieds, vous l'avez vu avec vos yeux, vous l'avez éprouvé, ce sentiment-là. Et donc, quand vous êtes arrivé au bout du périple, il y avait la joie, la mer, Monaco, et quand même un sentiment mitigé d'avoir vu ces montagnes en péril. C'est une question, je mets un point d'interrogation.
Alors, on savait qu'elles étaient en péril, hein, parce qu'on nous en parle, mais peut-être qu'on ne se rendait pas compte à quel point elles étaient en péril. Donc, c'est vrai que l'arrivée à Monaco, bon, c'était pas une joie aussi grande. En fait, je pense que Mélanie et moi, et Sophie, je pense aussi, nous avions envie de repartir dans l'autre sens, de rester dans ces montagnes un peu plus longtemps. Donc ça a été un moment assez... On a dû vraiment se motiver à re-rentrer dans la civilisation, mais ça, c'est presque autre chose. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que j'ai eu un sentiment au fond de moi comme quoi il y avait beaucoup de travail à faire. Et que là, vraiment, commençait l'Alpine Quest.
Pourquoi vous aviez envie de retourner dans ces montagnes? Parce que je m'imagine, après 54 jours, tout se déniveler, tout ça, on est content de retrouver un bon bain, un lit, tout ça. C'était peut-être pour se dire, on va aller tenir la main de la montagne qui est en train d'agoniser.
C'est joli, comme vous dites ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Je vois ces montagnes, je les vois féminines déjà. Quand on les a souvent décrites comme masculines, hostiles, enfin, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus différent, qui est que la vie est plus simple. On vit avec un sac, on a nos affaires dedans. Il y a plein de choses qui se sont passées dans le monde que j'ai pas suivies et qui d'habitude nous minent. Donc, le pape est mort. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées et nous on le savait pas, on nous l'a dit après. Donc il y a peut-être ça, cette simplicité. On vit en osmose hein, avec ces montagnes féminines.
La montagne, oui, on parle de sentinelle, de donneuse d'alerte, c'est vrai qu'on dit la montagne, ça se conjugue au féminin, je ne peux pas désavouer ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, Lubna Frey. Vous irez d'ailleurs sillonner les classes en Suisse romande et je crois aussi en France voisine pour raconter votre périple et puis témoigner de ce que vous avez vu. Ça, c'est le travail ou le plaisir peut-être qui vous attend.
Exactement. Donc il y a bien sûr ce lien avec les générations futures, les jeunes qui comprennent tout de suite. On est déjà allé voir quelques classes à Verbier, au Châble, à Sainte-Foy,
En Tarentaise,
exactement.
Ouais, c'est en France, ouais.
Et de ce soit de 9 ans, à partir de 9 ans, enfin, ils sont... ils adorent cette aventure. Ils veulent y participer. Ou alors ils disent, ben moi, plus tard, j'ai vu une jeune de 9 ans qui me regardait, elle est aventurière. Et moi, plus tard, je serai aventurière.
Vous plantez des graines, là?
Ah oui.
Et est-ce que l'aspect climatique, environnemental, les frappe aussi?
C'est pas que ça les frappe, c'est qu'ils vivent déjà avec. En tout cas, ces classes-là qui sont proches des montagnes. Donc, c'est pas une surprise. Eux, ils veulent... Et une autre petite fille qui a dit, mais oui, ça m'inquiète, hein, moi, l'état des glaciers et le manque de précipitations, on a dû dire le manque de neige. J'ai envie que mes enfants skient et que mes petits-enfants skient.
On verra.
C'est pas gagné.
Ouais, c'est pas gagné. Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas un manque de précipitations. Au contraire, parfois, elles sont de plus en plus denses, voire même tropicales. Par contre, c'est la limite des chutes de neige qui remontent. Et il y en a beaucoup au-dessus de 2500 mètres, même en été parfois, et en dessous. Ben non, c'est de la pluie. Alors le ski, ça, c'est un sport d'avenir.
On ira faire des expéditions en forêt
absolument.
Tropicale, peut-être.
Le portrait, votre portrait, Lubna Frey, ce sera dans un instant, juste après ce disque que vous avez choisi. Oui, le choix était vaste hein, chez David Bowie, ça s'appelle Life on Mars.
Ça fait plaisir à Simon.
Oui, c'est vrai.
It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. To the seat with the clearest view.
and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Life on Mars. Il y a un point d'interrogation, c'est une question. David Bowie dans les années 70. Vous nous avez écrit à son propos, Lubna Frey, vous pouvez tout jouer de lui, j'aime toutes ses chansons. Au moins, c'est réglé. Alors on en a choisi une.
Et il y en a beaucoup.
Et il y a, oui, il y en
a
pas mal.
On a le choix, ouais.
Quel est votre rapport avec Bowie ?
Alors Bowie, c'est toute une partie de ma vie, en Angleterre. À 13 ans, je suis partie en pensionnat de jeune fille en Angleterre. Pas par choix, j'étais bien en Suisse, à Genève.
On vous a envoyé là-bas ?
Oui, de nouveau cette énergie peut-être débordante.
Trop d'énergie, donc il fallait la mettre à l'écart.
Oui, il fallait essayer de cadrer ça, et donc les
pensionnats anglais sont connus pour ça.
Voilà, exactement. Donc je parlais pas anglais, et il y avait plein de règles, et tout était stratifié. On essayait de m'expliquer ça, je comprenais pas, je rejetais ça, j'avais pas envie. Et en fait, j'ai trouvé du confort chez Bowie.
Donc, vous aviez le droit d'écouter Bowie le soir sur un Walkman dans votre pensionnat ?
Oui, c'était des Walkman. À certaines heures bien précises, on pouvait écouter de la musique, heureusement.
Et c'était un peu profane, Bowie, non ? Pour un pensionnat, être androgyne, polytoxicomane...
On n'allait pas jusqu'à contrôler vos ouais. contenus des cassettes.
C'est ça. Elle ne ouais. savait pas ce que...
Elle ne savait pas ce que vous écoutiez.
Non.
Donc il y a une... C'est quasiment... Oui, il fait partie de votre vie. Il y a une fraternité, il y a une sororité, il y a une... c'est un compagnon d'armes, quoi.
Oui, c'est ça. C'est qu'il m'a donné quelque part quelque chose, la force ou le courage de continuer et d'être bien malgré le fait que j'avais l'impression d'être un peu enfermée dans des murs. Voilà. Quand donc c'était la liberté un peu, Bowie.
Oui, je vous comprends tellement. Et quand on traverse les Alpes en 54 jours, est-ce qu'on a le temps ou l'envie peut-être d'écouter de la musique à un moment de la journée?
Alors oui, la journée non. La journée, on est vraiment dans le silence, dans les montagnes. Il faut écouter les bruits de la montagne. Elle est dangereuse et elle nous lance des alertes. Donc il faut être très à l'écoute, aussi à l'écoute entre Mélanie et moi ou d'autres, ou Sophie ou d'autres filles qui étaient présentes, d'autres femmes qui étaient présentes. Mais le soir, parfois en cabane, ça fait du bien de juste pouvoir écouter un tout petit peu de musique et de créer son petit nid. Surtout quand on vadrouille 54 jours, donc 53 nuits.
En cabane, essentiellement?
Pas essentiellement en cabane. On a vraiment fait plusieurs nuits en cabane. Ensuite, on descendait un peu dans les villages, des hauts villages, à 1500 mètres, disons, 1700 mètres. Des gîtes, des petits hôtels, on remontait, enfin, voilà. Où nous amenait la traversée et le parcours qui avait été fait par Mélanie.
Jamais sous tente, a priori?
Non. Et la raison est simple, à part le froid, que je n'aime pas particulièrement, mais c'est le poids du matériel. Notre sac était déjà à 12 kilos, y compris l'eau, mais des fois un peu au-dessus, si on est en train de mettre les skis sur le sac, et ben on dépasse 12 kilos, on arrive facilement à 13 et demi, et en fait, ça devient trop lourd.
Oui, sur 54 jours, ça devient lourd, effectivement. Mmh. 12-13 kilos, c'est un sac pour une grosse journée d'alpinisme, à peu près. Mais,
c'est déjà assez lourd.
C'est déjà assez lourd.
12 briques de lait.
Oui, c'est bien, c'est un bon calcul.
je compare aux briques de lait.
Vous êtes né à Bagdad en 1967. Maman genevoise originaire du Jura, qui voulait rentrer en Suisse alors que votre papa, irakien d'origine saoudienne, était poursuivi par le gouvernement de Saddam Hussein. Rien qu'en posant le roman comme ça, on a déjà toute
une
histoire. Voilà. Ben, l'autre histoire, l'autre partie, c'est Mélanie qui va nous la raconter et qui va vous la raconter dans son portrait géré de l'autre côté de la vitre par Bastien Testori.
Et réalisé, parce que c'est une co-création.
Absolument.
De Bastien.
Tout en live, on y va.
Il fait encore frais quand Loubna sort du kiosque de Termignon dans la Haute-Maurienne. Elle soupire de soulagement, ses chaussures de ski à la main. Et même si elle se sent un peu à l'étroit dans les chaussures qu'elle vient d'acheter, elle arrive enfin à bouger les orteils. La marche vers le sud peut reprendre. Elle regarde Mélanie qui a adopté une démarche chaloupée dans ses baskets un peu trop grandes. Elle lui fait une grimace. Toutes deux éclatent de rire. Voilà plusieurs jours déjà qu'elle traverse les Alpes en direction du sud. Ce pari fou de l'Alpine Quest est devenu pour elle presque la normalité. Sophie se baisse pour desserrer un peu les lacets de ses souliers trop petits. Elle pense à Louis de Funès et Bourville dans La Grande Vadrouille, quand l'un flottait dans ses chaussures alors que l'autre souffrait à chaque pas, étriqué dans un petit 40.
Elle a l'image.
Hein. Vous vous souvenez, il le prenait sur ses épaules.
Oui.
Elle partage cette image avec Mélanie qui éclate de rire. Le même rire qu'elle avait entendu résonner il y a quelques années, lors de sa toute première patrouille des glaciers, déjà en équipe avec ses deux femmes extraordinaires, Sophie et Mélanie. Elle voit Mélanie qui prend la route devant elle, la suit, en toute confiance, c'est elle la guide de montagne. Loubna marche en suivant sa chevelure blonde qui vole dans la brise d'altitude.
La chance qu'on a, c'est qu'on est en montagne. On n'était pas tous les jours encordés à 7 mètres. On avait tout l'espace pour nous. Et si on avait une contradiction, si on avait un moment où on voulait être seul, il y a suffisamment de place. Et ça a permis de temporiser, de chacune prendre, de se libérer de certaines contradictions et puis de se retrouver à la fin.
Oui.
Non, ça s'est bien passé.
Loubna laisse quelques mètres entre elle et ses coéquipières. Elle a besoin d'être seule un instant pour penser à ses jours déjà écoulés. Elle revit cette horrible tempête en Autriche, ski au pied, dès les premiers jours de leur périple. À l'assaut du col près de Sölden, le vent et la neige les ont forcés à rebrousser chemin. Loubna se souvient de sa peur à ce moment-là que l'aventure ne se termine là. Mais en changeant l'itinéraire, elles ont réussi à passer à force de persévérance et d'encouragement respectif. Elle remercie intérieurement sa mère et son beau-père anglais de l'avoir mise sur les skis toute petite. Elle repense à son fief à Verbier, là où, pour la première fois, elle s'était élancée sur les pistes.
au tout début de l'année, vous étiez deux à travailler au téléski.
Oui, ben, il se trouve que les travaux de, du télésiège de Médran étaient commencés. Je me trouvais en Suisse allemande, en cherchais des employés. Et mon père a soumissionné pour moi parce que je faisais le Ausläufer en Suisse allemande. Vous savez, je portais de la viande pour un boucher. Et comme c'était une place enviable, parce qu'une des rares qui se trouvait alors dans le pays, mon père m'a rappelé et m'a trouvé cet engagement. Nous étions deux, nous étions avec Jean Casanov, qui est actuellement le directeur des téléphériques. Lui travaillait au fond et moi au sommet. Enfin, nous envoyions les clients. Il y en avait des fois très peu, tellement peu qu'il arrivait souvent... qui se passe comme si que faute de monde on arrête. Alors je téléphonais à mon ami Casanov et je lui disais: attends un petit instant, je descends. Ce qui me permettait de faire 5 à 6 descentes par jour, et c'est peut-être là la base de mes résultats sportifs d'après.
Lumna s'est arrêtée net. Elle vient de revivre le choc ressenti quand vers 8 ans elle s'était emplâtrée dans un mur de neige au lac des Vaux, ou c'est autrefois toujours à Verbier où elle s'était accrochée à un arbre du côté de Médran. Elle n'a pas oublié ses larmes d'enfant, empêtrées dans le mur de neige et incapable de se relever. Des larmes et de la détermination dans son regard sombre, exactement comme lors de cette tempête il y a quelques jours, ou ce moment qu'elle n'oubliera jamais, quand elle a vu le Cervin se dresser devant elle après avoir passé un col. Elle a encore les larmes aux yeux en se revoyant effondrée, recroquevillée sur elle-même, comme la petite Lubna dans son mur de neige au lac des Vaux. Elle se demande combien de centilitres de larmes elle a versé ce jour-là sur la terre suisse qui l'a accueillie à 3 ans. En rejoignant Mélanie à grande foulée, Lubna se dit que c'est exactement pour cela qu'elle pratique la haute montagne depuis si longtemps. Pour ses émotions fortes, tout en haut ou tout en bas. Le même genre d'émotion que lorsqu'elle suivait les flics de Manhattan sur les scènes d'homicides dans les années 90 pendant son stage de journaliste, ou encore à Cuba, au moment où le dollar était devenu la devise préférée des nantis et où le fossé entre riches et pauvres se creusait encore un peu plus. Lubna regarde autour d'elle sans s'arrêter de marcher. Elle admire la nature environnante, les sommets qui se dressent tout autour, le Milan qui plane à quelques dizaines de mètres au-dessus de leur tête. Pas beaucoup d'humains dans les parages. Et pourtant, les droits de ses congénères, elle en a fait son métier. Elle, qui aimait tant faire la fête toute jeune, elle s'est aujourd'hui assagie un peu et pense à sa rencontre à Harvard avec Ken Roth, alors directeur de Human Rights Watch. Un carrefour décisif qui l'emmènerait dans les bureaux de l'ONU où elle croiserait Kofi Annan et contribuerait à créer le Conseil des droits de l'homme en 2005. Mais en cet hiver 2025, alors que les humains ont de plus en plus besoin de voir leurs droits respectés, Lubna a pris de l'altitude. Elle espère que des petites filles comme celle qu'elle a été, celle qui cueillait des fleurs au-dessus des ruinettes en robe à pois, que des jeunes femmes et pourquoi pas aussi des garçons la voient accomplir ce périple et qu'ils se disent qu'on peut toujours passer à l'action sans avoir peur du danger.
Oh, c'est beau, oui. Là.
Ouais. En contemplant le soleil qui amorce sa descente, c'est l'œuvre de Bastien. En contemplant le soleil qui amorce sa descente derrière l'un des sommets.
Space vers, Oddity.
Ouais. Vers lequel. Bon, je peux continuer. Mais... Je reprends.
Pardon.
En contemplant le soleil qui amorce sa descente derrière l'un des sommets vers lequel elle poursuit sa marche, Lubna a une pensée pour sa mère, cette genevoise d'origine jurassienne qui lui a sans aucun doute légué ce caractère bien trempé. Elle n'en a que des bribes de souvenirs, mais elle sait que cette femme forte au début des années 70 avait choisi de fuir Bagdad avec sa petite Lubna, âgée de 3 ans. Passer à l'action sans avoir peur du danger. Cette expression tourne dans la tête de Lubna qui contemple le ciel, qui commence à prendre une nuance bleu nuit. Le gouvernement de Saddam Hussein menaçait son père irakien d'origine saoudienne, jugé trop à l'ouest parce qu'il vendait des voitures aux occidentaux. Ce n'est que des années plus tard que Lubna comprendrait cet exil, et en rejoignant ses compagnonnes de route dans la cabane où elles vont passer la nuit, elle se souvient de ce jour des années 90 où une guerre secourait ce pays qu'elle avait fui. Bien des années plus tard, directrice de Human Rights Watch, elle comprendra enfin que cette ascendance compliquée l'a guidée dans ses choix professionnels, aussi sûrement que Mélanie la guide depuis plusieurs jours dans les massifs alpins, en direction de Monaco.
Bagdad, novembre 1990. Les bruits de la ville rythment les pas du piéton qui déambule dans Rashid Street, la plus ancienne rue de Bagdad, la plus populaire aussi, pratiquement seul souvenir d'une ville aujourd'hui reconstruite dans le plus pur style réalisme socialiste. Rachid Street, rue commerçante, qui donne sur le souk où chaque jour les habitants de la capitale irakienne se promènent comme dans n'importe quelle métropole arabe. Aucun signe apparent d'une capitale à la veille peut-être d'un conflit militaire. Les bruits du souk résonnent, insensibles aux soubresauts politiques. Rachid Street ouvre ses cafés aux alentours de 8 heures du matin, des cafés aussi anciens que la rue, où les hommes viennent boire le thé, lire le journal ou fumer le narguilé.
C'était la voix du regretté Jean-François Moulin.
Absolument.
Qu'on vient d'entendre, oui. Sur fond de David Bowie. C'est pas, oui, mal. Hein.
C'est pas mal. C'est, je suis contente.
C'est pas mal.
Que les deux se soient mélangés.
Absolument. Merci beaucoup, Mélanie. Loubna Frey, vous avez entendu ce portrait. On était à Verbier. Alors voilà, toutes les lieux dits dont vous nous parliez, Mélanie, les lacs des Vaux, les ruinettes Médran, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pistes, enfin, des endroits sur les hauts de Verbier, hein. Vous avez appris à skier. Et puis alors, cette histoire de Bagdad, où vous êtes née à la fin des années 60, vous êtes partie toute petite, votre papa poursuivi par le gouvernement de Saddam Hussein. Tout ça, c'est une histoire que vous avez apprise un peu plus tard, je crois.
Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est une histoire que j'ai appris plus tard et que j'ai voulu découvrir, parce que je savais que des bribes, et c'est mon histoire, je voulais me l'accaparer de nouveau. Et j'ai suivi un peu la même démarche que pour les montagnes, c'est-à-dire que je suis allée rencontrer ou allée à la rencontre de cousins et cousines que je ne connaissais pas, au Liban, au Koweït, qui m'ont raconté des bouts de cette histoire. Et en fait, en effet, ma mère et moi avons pu quitter l'Irak. Mon père était déjà parti 18 mois avant, mais ça je l'ai appris après.
Donc là, on est au début des années 70.
Exactement, 70-71, quand il y a eu le deuxième coup d'État du parti Baath.
Et qui a mis Saddam Hussein au pouvoir.
Exactement. Avec son oncle et Saddam Hussein. Exactement. Et ça les a mis au pouvoir pour de bon. En 68, ils ont essayé. Ils n'ont pas tout à fait réussi, mais en 71, c'était bon.
Et c'était pas bon pour des gens comme votre père, par exemple.
Voilà. C'était pas bon pour des gens comme mon père. Il a pu s'enfuir, je pense, en négociant. Enfin, son frère a dû négocier avec le gouvernement. Ça, cette partie-là, malheureusement, je la saurai jamais. Et ma mère a essayé de quitter le pays, mais elle était très jeune. Elle avait pas grand-chose dans les mains. Et elle avait moi. Et en fait, comme j'étais irakienne, il fallait que mon père signe. Mais mon père n'était pas là pour me faire sortir. Donc vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. On les entend, on a entendu ça en Iran, mais en fait ça se passe au Moyen-Orient de façon assez courante.
Il faut l'autorisation de l'homme.
De l'homme, exactement.
Pour faire quoi que ce soit.
Mm-hmm. Et où était votre papa à ce moment-là?
Ma mère savait pas. Mais il y avait son frère qui a pu signer à la place de mon père et qui nous a acheté un billet d'avion. Enfin, on a pu arriver à Londres où était mon père. Et c'est à ce moment-là, ma mère a su que mon père était à Londres. Et en fait, elle était bouleversée. Elle était très jeune. Hein. Elle avait, dès là, elle devait avoir 22 ans, 23 ans peut-être. Bouleversée, très fragilisée. Elle pesait 42 kilos. Enfin, voilà, pas bien du tout, de la jaunisse. Et elle voulait rentrer à la maison. Elle voulait rentrer en Suisse chez ses parents. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et ils se sont... Je sais pas trop s'ils se sont pas beaucoup revus. Elle voulait se divorcer. Elle voulait plus rien avoir à faire avec l'Irak, ni avec mon père. Donc, moi, je n'ai jamais vu mes parents ensemble, en fait.
Mais vous avez vu votre père?
Je l'ai vu après, parce que j'ai demandé à le voir. Tout à coup, ça m'est venu vers 10 ans, 11 ans. Peut-être je l'avais vu une ou deux fois entre deux, mais je m'en souviens pas. Et en fait, au moins, il est venu. C'est vrai, j'ai vu ce grand homme. On parlait pas la même langue. Et ça a changé mon histoire. Parce que c'est pour ça que je suis partie en pensionnat aussi de jeune fille en Angleterre. Il voulait me cadrer, il voulait m'éduquer. Il voulait que je sois éduquée bien, c'est-à-dire par les Anglais.
Vous avez voulu le voir, est-ce que lui voulait vous voir? C'est vous qui avez fait la démarche à 10 ans?
Oui, c'est moi qui ai fait la démarche. Je pense qu'il voulait me voir, parce qu'il a jamais eu d'autres enfants. Mais de moment qu'on se voit, j'avais peut-être 12 ans à ce moment-là, et je ne suis pas sûre qu'il savait gérer une adolescente qui en plus a beaucoup d'énergie et qui sait ce qu'elle se veut. Donc ça a été un peu problématique entre nous.
Dans quelle mesure cette histoire vous constitue-t-elle encore déracinement? Certes toute petite, vous n'étiez pas consciente, vous aviez 2 ou 3 ans, mais enfin vous l'avez reconstituée par après. Dans quelle mesure cette histoire vous constitue-t-elle toujours, Loubna Frey?
Je crois que ça m'a apporté de la compassion pour les autres et pour les histoires de toutes personnes confondues qui ont des rapports, que ça soit avec leur nation ou avec leur famille ou avec un état politique, hein, qui sont problématiques et qu'on doit les écouter. C'est des histoires fabuleuses et des gens qui se réinventent, qui se reconstruisent, qui, pour moi, ça m'inspire. Et je pense que au plus profond de moi, c'est ça que ça m'a amené. La compassion et une meilleure entente du monde, une certaine tolérance.
C'est très cohérent avec ce que vous faites. Human Rights Watch, vous en êtes encore au comité directeur. Vous en avez été à sa tête. Les droits humains, bon, oui, c'est très cohérent avec ce sentiment de compassion que vous éprouvez. Donc là, vous êtes partagé entre le sport de très, très, très haut niveau, je pourrais rajouter encore quelques adjectifs, plein de traits, et les droits humains. Comment ça se partage chez vous, ça?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si je dirais comment ça se partage. Je dirais plutôt comment ça se rassemble.
Oui, c'est vrai. On peut le voir comme ça.
On peut le voir comme ça. Et c'est vrai qu'Alpine Quest, et donc cette traversée des Alpes, quelque part, sans que je me rende compte et sans que je le fasse consciemment, ça rassemble ces côtés de ma personnalité ou de mon identité. C'est-à-dire, oui, je vais faire un parcours avec mes amis et d'autres athlètes féminines, un parcours qui est compliqué, qui est difficile, qui est peut-être vu par certains comme extraordinaire, mais je vais aussi l'accompagner par la défense des droits, de certains droits, et là on parle bien sûr de droits environnementaux, qui sont les nôtres, et aussi parler, que ce soit dans les cabanes, aux gardiens de cabanes, aux gens qui tiennent des gîtes, dans ces montagnes, et qui souffrent ou qui sont reliés à des stations de ski qui ne fonctionnent plus, et qui sont reliés à cet environnement, et qui ne peuvent plus gagner l'argent qu'ils devraient gagner, qui sont inquiets pour le futur. Voilà, ça se... C'est une évidence, en fait, mais a posteriori.
Oui, parce que quand on fait une Alpine Quest, on est sur ses skis, sur son vélo, sur ses chaussures, avec ses copines, mais on rencontre beaucoup d'humains, vous venez de le dire. On a souvent tendance à penser que les populations alpines ont plus de résilience, parce qu'au fond, elles se sont toujours adaptées à la montagne, au changement climatique. Je pense aux populations de Blatten, dans le Lutschental. Je regardais encore un reportage il y a quelques minutes sur la montagne qui était en train de lui tomber dessus. Alors, on ne sait pas encore véritablement si c'est lié au changement climatique ou si c'est l'érosion naturelle, etc. Est-ce que vous avez vu des gens peut-être plus résilients que d'autres face à ces questions de réchauffement climatique, de fonte du permafrost, de glaciers qui s'écroulent dans les montagnes? Mais non, vous venez de nous dire, ils sont quand même inquiets. Pour eux, c'est pas normal. Pour eux, néanmoins, il y a quelque chose de détraqué.
Absolument. Le mot détraqué est peut-être juste. C'est-à-dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas ce dont ils ont l'habitude de voir, ce n'est pas une évolution avec des années, avec moins de neige. Pendant des années, on nous a dit ça. Oui, il y a moins de neige, oui, c'est comme ça, et parfois après, il y en a beaucoup. Non, il y a une dégradation qui, en fait, à ce stade, pour eux, leur enfreint ou se met en danger leur façon de vivre. Et ils sont face à 2 choix. Un, c'est, comme vous dites, de la résilience et d'essayer de tenir le plus longtemps possible, ou alors de s'en aller et d'aller ailleurs. Et ça, je crois que pour eux et pour n'importe quelle communauté, que ce soit au bord de l'océan, c'est pareil, je pense que ce déplacement, entre guillemets, forcé, est terrible.
Il y a des gens qui vous ont dit, nous, on n'en peut plus, on va changer de vie, on songe à partir.
On déménage.
Oui, j'ai pas eu le « on déménage », c'est vrai, mais j'ai eu le « on doit commencer à penser à ça ». Je pense notamment à un couple qui nous ont, ils nous ont gardés pendant 3 jours quasi, mi-avril, à Bersezio, qui est sur la partie du col de la Lombarde, Passo della Maddalena, donc la partie italienne. Et c'est à 1500 mètres d'altitude, il n'y avait pas de neige. Les 3 jours vers la mi-avril, où ici, où à Verbier, il a neigé 1,5 mètre, comme ça, en l'espace de 2 heures ou une soirée, c'était des trombes d'eau qui tombaient à Bersezio. Mais des trombes pendant 2 jours.
À 1500 mètres d'altitude.
À 1500 mètres d'altitude, et il pleuvait jusqu'à 2100, 2200. Et donc eux, ils ont un bar, ils ont un Airbnb, enfin un genre de gîte, d'auberge, voilà, merci. Et ils vont pas pouvoir continuer comme ça.
Donc c'est économique en fait le problème, c'est qu'ils arrivent pas à gagner assez d'argent puisque plus personne ne passe.
Oui, c'est un problème économique et je pense que ça sera important que dans ces statistiques dont on nous parle par rapport aux glaciers, etc., qu'on le place. Ça met en danger des communautés. Au début, qui sont dans front lines, qui sont devant, hein, et c'est un problème économique de vie. Et ensuite, ça descend, et ensuite, ça aura d'autres impacts, bien sûr, sur nous et sur toute la chaîne, jusqu'à la Méditerranée et jusqu'en haut, dans le nord. Donc, oui, je pense que c'est important de mettre ça en avant.
Mais ces gens partiraient où? Les gens dont vous nous parlez, qui habitent à 1500 mètres d'altitude, s'ils partent, c'est pour aller en plaine, c'est pour faire quoi?
Oui, c'est pour aller en plaine. Elle venait d'un autre endroit qui était plus en plaine. J'oublie le nom là maintenant, mais je pense que pour lui, ça serait impossible. Il a des ski free ride partout. Il y avait avant, il y avait des gens, des bus entiers qui venaient pour skier parce que c'est des pentes qui sont. C'est pas comme Verbier. Il y a beaucoup moins de monde. On peut skier. Je pense la poudre. Il nous montrait des mètres de poudre. Aussi à Giasson, en Val-Grisanche, il y avait un teneur de Mathias qui tient un magnifique gîte et qui nous a montré des photos qu'il avait des glaciers environnants, il y en a beaucoup, il y a 30 ans qu'il avait sur son téléphone. Et il les avait juste là, il nous les montrait et en fait c'est incroyable. Le lendemain, on a pris ce même chemin, Mélanie et moi, dont il nous montrait les glaciers et c'était des petits bribes de ruban tout en haut qu'on voyait de glace, mais on n'aurait jamais pensé que c'était un glacier.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a commencé à voir, il y a une quinzaine d'années, ces fameuses photos avant-après. Alors, on mettait des photos de glaciers au début du XXe siècle, 1910, 1920, ou fin du XIXe, on avait déjà des photos sépia, et puis maintenant. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, au fond, il faudrait montrer des photos 2000, 2010, 2025, 2015, 2025. Je pense à Verbier, que vous connaissez très bien. Si on regarde une photo du glacier du Montfort, là, où il y a un téléphérique à 3300 mètres d'altitude, si on compare les photos de 2000 et 2010 aux photos de maintenant, il y a quasiment plus de glace. C'est une montagne libérée de sa glace et qui n'est plus que rocheuse. Donc c'est tout près, c'est tout proche, c'est très rapide. Vous l'avez constaté, vous aussi, à Verbier. Et dans d'autres endroits, hein, on doit composer avec ça. On va écouter Zoé Mé, qui a été récemment notre concurrente à l'Eurovision. Oui, actualité d'il y a quelques jours. Elle nous parle de son voyage, elle nous le chante, et puis vous nous parlerez de votre voyage au Nafré juste après.
Mes yeux condés découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars. Laisse-moi t'aimer, même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. je vais partager ton bagalam. Tu me bouffes avec ton regard. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi.
Zoé, mais voyage, alors on reprend le titre au rebond, Lubna Free. C'est ce que vous avez dit à vos copines, Mélanie Corté et Sophie Pelka. J'aimerais bien faire un voyage avec vous. On va traverser les Alpes. C'est comme ça que vous leur avez annoncé la chose?
C'est un peu vrai, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que on partait pour 2-3 nuits. Une fois on est parti pour 5 jours, à travers les Alpes où il y avait de la neige, chaque saison. On faisait ça une fois ou deux, mais il y avait toujours cette curiosité. Oui, mais une fois qu'on va là-bas et ce sommet-là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc c'était au fil de cette curiosité de dire, mais si on faisait le tout, où est-ce que ça commence? Je demandais à Mélanie, mais où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée, c'est comme ça que je me suis dit, mais faisons le tout. Et moi, si je me dis ça, ben, je vais passer à l'action. C'est ça le truc.
Faut être un peu fou, non? Ou un peu folle, non?
Complètement.
Aller du début à la fin, à l'arrivée.
Oui, il faut oser. J'ai pas trop lu sur les personne qui avait fait ça avant moi, un petit peu.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Je veux dire, d'une seule traite, il y en a très peu.
Exactement. Il y a des gens qui font ça un peu chaque année, ou même des gens, c'est des alpinistes. Et c'est vrai que je ne voulais pas trop lire, parce que je ne voulais pas trop me faire peur non plus. Je voulais rester avec cette envie. Et du moment que Mélanie a dit oui, ben pour moi, c'était bon. C'était réglé. Et on était assez synchro comme ça.
Mais alors bon, il y a la folie de départ, mais il en faut pour créer des grands projets. Puis ensuite, concrètement, comment ça se prépare? Est-ce qu'on envisage déjà un itinéraire? Est-ce qu'on envisage déjà un équipement? Est-ce qu'on envisage aussi, puisque vous êtes athlète de très haut niveau, un entraînement particulier? Ou est-ce qu'au fond, vous êtes un peu laissé porter? Notamment, je pense que physiquement, vous étiez prête. Vous faites déjà de l'Ironman et du ski, etc. Mais pour l'itinéraire, est-ce que ça, vous l'aviez prédéfini?
Alors oui, ça, Mélanie a travaillé dessus. Ça a pris de nombreuses heures. Il y a certains endroits, comme elle l'explique et comme j'ai appris, qui sont un peu des passages obligatoires, où on se retrouve, où les personnes qui ont fait ce passage-là, enfin, passent par là. Mais, grosso modo, on avait une idée du plan A. Mais c'était que un plan. Après, sur le terrain, on voulait la liberté de pouvoir changer et passer au plan B, au plan C, au plan D. Et c'est ce qu'on a dû faire par moment. Renoncer à un col particulier, vous l'avez dit.
Cette fameuse tempête en Autriche, c'était au tout début de votre voyage.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû faire demi-tour?
On a dû faire demi-tour. Ça faisait des jours qu'il neigeait, qu'il y avait beaucoup de vent. Et en fait, le jour même, Mélanie et moi sommes allés voir, entre guillemets, et mi-chemin, elle se retourne vers moi, elle me dit « je le sens pas ». Et quand Mélanie dit ça,
je dis OK.
Oui, je vais pas pousser en avant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est vrai que d'un coup le vent s'est levé beaucoup plus fort. On était à 200 mètres du sommet, mais du col. C'était pas un sommet, c'était un col, Tinsler-Hoch. Et en fait, on savait que si on passait pas par là, on devait faire un détour. Ça nous a pris 7 heures en train et en bus pour rejoindre l'endroit pour pouvoir continuer notre périple. Et je dois dire que cette liberté, en règle générale, de pouvoir aller comme on pouvait vers le sud, nous a beaucoup aidé vers la fin, où il y avait plus de neige, où il pleuvait des cordes, où tous les gîtes, les huttes, les cabanes, enfin tout fermait devant nous, parce que c'était mi-avril et ils se sont dit « Ouh, une semaine de mauvais temps, on ferme avant et on s'en va ». On a dû vraiment aller chercher des solutions et faire des téléphones après téléphone. On passait avec Laetitia Roux était avec nous à ce moment-là.
Championne de ski alpinisme.
Oui, 14 fois.
Ah, 14 fois, oui, j'avais pas le chiffre en tête. Française.
Française. Et c'est sa région, heureusement. Donc elle appelait des amis qui appelaient des amis. Enfin, on a vraiment dû aller chercher des solutions sur le terrain.
Vous avez été tenté de jeter l'éponge, d'abandonner, d'en rester là et de finir en voiture, en bus, que sais-je?
Jamais. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Je pense que si Mélanie était assise là à ma place, elle aurait exactement la même réponse. Jamais.
Pourquoi? C'est la curiosité de voir encore ce qu'il y a derrière ou c'est plutôt le défi qu'on s'est lancé à soi-même et on se sent...
Investi.
Oui.
Et je pense qu'il y a plein de raisons. Oui, le mot investi d'une mission, investi d'une équipe aussi, qui s'est engagée, investi de toutes ces femmes hein, qui se sont engagées sur le terrain, l'équipe aussi qui est pas sur le terrain et qui est engagée. Il y a aussi le fait que c'était un peu ça la question. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, et non en 1971, par exemple, quand les 4 guides autrichiens ont fait la traversée des Alpes, est-ce que c'est possible aujourd'hui, en 2025, de faire la traversée des Alpes en une fois? Vu les conditions climatiques, les conditions géologiques, les conditions de neige, les conditions, enfin, etc.
Quel a été le moment le plus difficile pour vous? Alors, il y a ce renoncement, ce rebrousse chemin en Autriche.
Après bon, combien d'heures de...
Faut faire un grand détour. Mais...
De monter, vous aviez passé combien de temps à arriver à 200 mètres du col?
C'était pas que c'était si long. C'était pas ça dans ce cas précis. C'est que déjà le jour d'avant, on avait passé 12 heures à tout regarder, à parler aux guides locaux, à regarder les cartes, et la journée d'avant. Donc il y avait beaucoup de stress qui s'était accumulé.
Est-ce qu'on a des cloques au bout de... C'est une question très pratique parce que je pense à tous les randonneurs, les randonneuses qui nous écoutent, qui font des hautes trous, des patrouilles, des glaciers, simplement de la randonnée, de la marche dans le Jura, quand on marche 4-5 heures, mais avec des bonnes chaussures, au bout d'un moment ça frotte.
Parce que vous étiez en chaussures de ski?
Oui.
Chaussures de ski.
Enfin, de ski alpinisme, ouais. mais
c'est
pas
léger,
de...
mais enfin c'est quand même des chaussures rigides, quoi.
Oui.
Est-ce qu'on a les pieds fichus au bout de quelques jours?
Ah, moi j'ai eu beaucoup de cloques et pourtant j'en ai jamais en règle générale. Mais je peux expliquer ça par le fait qu'on a eu peur d'avoir froid au départ. Hein, si on me disait qu'est-ce que t'anticipes, ben, le froid, je vous ai dit, j'aime pas trop ça. Mais en fait, on a eu très, très chaud. On se retrouvait sur ces glaciers.
Ça, c'est pas normal.
C'est pas normal. On se retrouvait au milieu de ces glaciers. On était en sueur. Et c'était pas normal. Et en fait, là, de ce fait, j'ai eu beaucoup de cloques. Et voilà. On les gère. Aussi un peu des bobos à droite, à gauche. Mais voilà, qu'on gère et qu'on fait avec.
J'ai vu que vous aviez dû acheter des chaussures d'urgence dans un kiosque d'un village de montagne en France. Alors, je sais pas si c'est lié aux cloques, mais racontez-nous cette anecdote.
Là, c'était plutôt lié au manque de neige. Ça veut dire que ça faisait des jours où on était à Briès, je crois qu'on est à Briès, on dit le S, dans le Kera, et ça faisait des jours qu'on devait marcher le matin pour rejoindre la neige et qu'on devait...
Donc vous aviez les skis sur le sac?
Oui, et qu'on devait marcher en fin de journée, une heure et demie, pour descendre et retrouver un endroit où dormir. Et donc quelque chose qu'on aurait fait à ski de nouveau. Et bon, j'ai calculé qu'on a peut-être marché en chaussures de ski une quinzaine d'heures. C'est beaucoup. Surtout quand on a des cloques. Oui. Mais en règle générale, c'est beaucoup. Et là, on s'est retrouvé à Briès. On avait une journée de pause parce qu'il allait faire mauvais. Et bien sûr, il pleuvait. Donc, on était dans ce village, en chaussures de ski, notre journée de repos. Et on s'est dit, on en a marre. Alors, on a acheté des chaussures, comme vous l'avez dit, Mélanie, une paire trop petite et une paire trop grande. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait avec les chaussures qu'il y avait dans le kiosque. Et c'était une solution à court terme ou à moyen terme, mais ça veut dire qu'il fallait aussi porter les chaussures de ski.
Eh oui, forcément. Oui, vous n'allez pas les abandonner en route. Le plus beau tronçon, c'était au pied du Cervin. Il nous reste 45 secondes avant le flash. C'était vers la cabane Schönbill sur l'itinéraire de la haute route.
Ah, absolument. Sur le glacier Zmout et le Stöcki.
C'est parce qu'il y a le Cervin, non? C'est un peu chauvin, non?
Je ne sais pas si c'est le plus beau tronçon. Ça, c'est vous qui l'avez dit.
C'est vous qui l'avez dit, je crois, quand vous l'avez écrit.
D'accord. Un des plus beaux tronçons, vrai. Ouais. Il y avait le lever du soleil sur le Cervin.
Ah oui, non. Ah,
c'est
oui.
Pas mal.
Ouais, on est d'accord avec vous.
Même moi,
frais.
Je trouve ça beau.
Bah oui, pas de raison, je vous emmènerai une fois, Mélanie.
Avec plaisir.
On vous retrouve en deuxième heure pour la suite de l'expédition et du récit de l'Alpine Quest et tout un tas d'autres questions. Là, c'est les infos qui arrivent, on va les écouter très précisément, très religieusement. Et puis on se retrouve de l'autre côté, 16h pile sur RTS.